Nous entrons enfin dans notre époque et je me rends compte que décidément, j'ai été trop ambitieux et que je n'aurai pas le temps de tout dire. J'ai écrit ça dans mon intervention. Même sous une forme résumée et simplifiée. Je veux simplement souligner que notre époque consiste, c'est mon hypothèse, en une nouvelle configuration entre trois types de flux. Les flux de la nature, de la physis, les flux du corps, du soma, et les flux de la technique, de la technique. Parce que l'époque industrielle a scindé comme jamais la forme et la matière par l'intermédiaire de l'énergie et donc a fissuré l'ontologie. C'est un peu dramatique. Au-delà de la physis et de l'énergia, le code informatique binaire va être un nouveau flux qui sera en même temps logique et en même temps matériel. Parce qu'il permet d'opérer concrètement sur le monde et qu'il lui faut une logistique. Il n'est pas seulement dans une boîte noire isolée, un monde virtuel, immatériel, l'informatique n'est bien sûr pas immatérielle, on le sait maintenant. Le monde n'est pas codé en binaire, mais est codable. Et le propre de l'informatique, c'est de s'appliquer à toute chose indifféremment. Et là, on retrouve le motif de l'énergie. Cet indifférentiel du flux, qui ici se fonde sur la séparation entre le software et le hardware, cette séparation, c'est simplement quand on achète un ordinateur, on ne sait pas à quoi il va servir, parce qu'il suffit de changer de logiciel pour créer une nouvelle fonction dans l'ordinateur. Et ça, c'est un cas unique dans la technique. Et c'est ainsi, par cette division, que l'ordinateur va devenir un monde et une machine universelle. Alors le binaire, c'est une décomposition, hein, courant, pas courant, c'est ça le binaire, mais tellement rapide, plus rapide que notre système nerveux, qu'elle va devenir imperceptible. Elle va se porter à la limite de notre perception. Sa discrétion est perçue comme continue. L'informatique, c'est un monde de flux avec des variables, des variations et une variabilité. C'est le monde des possibles, comme je vais essayer de le démontrer. Si le code informatique a émergé avec le téléphone, le réseau web est devenu la structure mondaine du code. C'est la raison pour laquelle le web n'est pas une question locale ou technique, mais concerne le monde en tant que monde. Ce pourquoi d'ailleurs, quand nous n'avons plus de réseau, par exemple quand nous rentrons à la maison, nous sommes un peu perdus et comme sans monde, nous ne sommes plus en contact avec le monde. Là encore, je dois passer rapidement, mais le réseau est une espèce de graphe qui s'applique à une logistique réelle. Les serveurs sont quelque part, les ordinateurs ailleurs, il y a des câbles, etc., etc. Le code se répand sur le réseau en étant découpé en paquets et distribué. Image de la webpage où nous étions. Le câble, le fameux câble. Tout fonctionne grâce à des protocoles, c'est-à-dire des standards, qui rendent compatibles différents réseaux entre eux. Cette notion de protocole est fondamentale pour comprendre d'une part que la domination aujourd'hui n'est plus seulement hiérarchique, mais rhizomatique. Ainsi, détourner des flux Internet, le fait de détourner un flux Internet, c'est promu par toutes les entreprises du web par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les API. Le détournement est une manière pour une entreprise d'agrandir encore sa surface. D'autre part, la standardisation n'induit pas une homogénéisation, mais une différenciation. Ainsi, nous utilisons tous des standards et des formats pour créer des images, par exemple des JPEG. Ceci ne veut pas dire que nous faisons les mêmes images. Ces deux éléments impliquent une étrange inversion. Les méthodes de résistance passées deviennent des outils de domination. Nous travaillons en effet tous sur des systèmes d'exploitation, hein, les OS, les systèmes d'exploitation, quel nom. Nous formatons des disques durs, nous sommes attaqués par des virus, quel monde étrange. Dernière partie. Alors, donc, la Terre entière est continuellement imbibée de sang, n'est qu'un hôtel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort. La conséquence la plus visible de cette nouvelle organisation des flux, où le tumulte ne s'oppose plus au code, et c'est pour ça qu'on peut calculer des images qui semblent irrégulières, c'est la mémoire des anonymes. Pour la première fois de l'histoire humaine, à ma connaissance, la mémoire s'étend aux anonymes. Elle n'est plus seulement celle des « grands hommes », entre guillemets, scientifiques, artistes ou politiques, mais celle de tous et chacun. Ce qui explique d'ailleurs l'exigence contemporaine de récits multiples et différenciés. Non seulement cela met en crise les grandes disciplines humaines, comme l'art, puisque l'artiste parlait au nom de tous ceux qui n'avaient pas de voix, mais cela bouleverse notre relation à l'histoire. Comment les historiens, dans un siècle, raconteront notre époque ? Pourrons-nous encore continuer constituer les histoires de l'histoire ? Sommes-nous promis à la disparition à cause de cette hypertrophie de la mémoire ? n'y a pas d'image, j'espère. Une seconde conséquence de cette indifférence du code informatique, qui s'applique à toute chose, prend chaque jour plus d'ampleur, c'est bien sûr cette fameuse intelligence artificielle. Alors je ne vais pas rentrer dans les débats sur la notion d'intelligence, j'avoue que c'est des débats qui ne m'intéressent pas. Je voudrais simplement signaler un nouveau flux, tout à fait impressionnant d'un point de vue historial. Nous sommes enfin parvenus à automatiser la production de la ressemblance, c'est-à-dire de la mimésis. Pendant des années, lorsqu'on voulait générer des images, on devait générer des vecteurs, des pixels, ou encore associer automatiquement des images bitmap, selon le principe du collage. Avec ces fameux réseaux récursifs de neurones, les machines sont capables d'apprendre, par exemple, à faire des images qui ressemblent à des oiseaux. On peut définir ces logiciels de réseaux de neurones artificiels comme une induction statistique, pour reprendre la tripartition de Peirce. C'est-à-dire que finalement, c'est une simple généralisation. Partant d'une grande quantité de médias, par exemple des images d'oiseaux, la machine va effectuer des calculs entre les pixels et va déduire un modèle numérique probabiliste et non signifiant d'oiseaux possibles. Elle peut alors produire des images de référents qui n'existent pas, mais qui sont ressemblants au monde connu. Donc ces oiseaux n'existent pas, mais nous les reconnaissons comme oiseaux. Le tournant se fait alors historique, puisque nous automatisons la production de la ressemblance, c'est-à-dire la mimésis. On peut alors proposer que la machine produit des médias de médias, des données de données. À partir de photos, je produis d'autres photos. À partir de textes, je produis d'autres textes. Donc la récursivité s'applique au champ culturel et au champ des médias. Et ceci à partir de notre mémoire, des traces mémorielles sur le réseau. La récursivité n'est pas productrice de répétition ni de différence, c'est-à-dire d'événements purs, qui est une espèce de fantasme badulousien, mais de ressemblance. La ressemblance sans référent réel, c'est le possible, comme nouvelle logique ontologique. Et cette logique, c'est ce que je vous propose, c'est l'art même. Alors un exemple de récursivité, avec un projet où j'avais nourri un réseau récursif de neurones avec seulement des peintures, qui me produisaient des peintures assez kitsch abstraites, et je repassais cette image dans un réseau de neurones qui tentait de décrire l'image et qui y voit un oiseau dans l'eau. Et ce qui se passe d'un point de vue esthétique, c'est que bien sûr, nous nous demandons pourquoi la machine a vu cela, qui n'y est pas. Et nous commençons à nous mettre à une place impossible, qui est herméneutique, qui est celle de la machine même. Donc nous commençons à voir l'oiseau un peu en bas avec des ailes, et nous voyons l'eau par les ondulations qui sont un peu partout dans la chose abstraite. Alors pour revenir au GAN, et à cet oiseau trompeur qui fait étrangement signe vers le chant trompeur de l'oiseau chez Emmanuel Kant, on a trop vite fait de passer de l'automatisation de la mimésis à une autonomisation où la machine remplacerait l'artiste, l'humain, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est pas ça le sujet, c'est pas l'autonomie des machines qui est en sujet. Parce que la ressemblance présuppose une hétéronomie, une relation. Parce que si l'oiseau généré est ressemblant à un oiseau, c'est qu'il répète ce que nous connaissons, et c'est pourquoi il est probable, mais différent, qu'il n'est pas la reproduction identique de ce qui préexiste. Donc c'est un apprentissage technique d'un apprentissage humain. C'est une mémoire de mémoire, c'est des données de données, c'est des médias de médias. Les machines nous font rêver à des oiseaux possibles qui n'existent pas. Nous hallucinons des oiseaux dans les pixels parce que les machines ont halluciné des pixels dans les oiseaux. C'est cette récursivité qui va faire émerger la parenté des formes. Un autre projet, donc, qui était de passer un film très connu d'Antonioni, bien sûr, Blow Up. Donc là, c'était Blow Up que j'avais passé sur un réseau de neurones. Donc la machine tentait de décrire ce qu'il y avait à l'image. Donc là, c'est un homme et une femme assis sur un canapé, et l'homme semble triste. Et bien sûr, les erreurs d'interprétation de la machine produisait, c'est ça qui est très étonnant quand on voit tout le film sous-titré de cette façon-là, une autre histoire, une histoire alternative, tout à fait cohérente, mais qui n'était pas l'histoire de Blow. Et donc on peut s'imaginer un monde où on n'aurait plus à produire des médias, mais on pourrait multiplier les interprétations des images, ce qui répondrait à la question dans le champ de l'art contemporain, de la surcharge d'images, de sons, etc., et du stock de données. Alors ce qui était étonnant aussi dans ce film, c'est que Blow Up, finalement, il y avait dans cette version de Blow Up, il y avait beaucoup de skateboard, de frisbee, parce que comme les images étaient principalement des images californiennes, ça devenait un monde un peu californien. Nous voyons ainsi un fil conducteur se dessiner. Les flux ont été ceux de la nature indomptée, transformés en cycles célestes et réguliers. Les flux ont été ceux du corps, de ses écoulements et de ses humeurs entre la vie et la mort, matérielle et spirituelle. Les flux ont été ceux de l'énergie de toute matière, d'une indifférence permettant de convertir tout en tout. Les flux ont été ceux du code, une structure logique au sens du logos, travaillant le monde. Nous ne savions pas pourquoi nous étions devenus hypermnésiques. Suffisait-il de faire du marketing pour dépenser des millions dans l'enregistrement de toutes ces données, accumulées avec le web de zéro? Ou bien s'agissait-il d'autre chose, d'un autre projet? S'agissait-il de nourrir les machines avec nos données afin qu'elles puissent en produire d'autres qui leur ressemblent? S'agit-il donc de produire un autre monde, un monde sans nous, c'est-à-dire une Terre? Pour conclure, donc je suis dans le temps finalement, alors cette fameuse phrase de Ignace Paul Vital, citée par Paul Éluard, etc. Il y a un monde, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Et la machine répond, c'est plus avec vous qu'avec les autres. Vous ne devez pas renoncer à penser que vous êtes une personne différente dans ce monde. Toute la honte que vous ressentez disparaîtra une fois que vous vous accepterez. Nous aurions ainsi trouvé une première approximation conceptuelle de la parenté des formes promises par la nature-philosophie et Alan Turing, des formes naturelles et techniques. Cette approximation n'opposerait plus les changements naturels et techniques. Elle comprendrait pourquoi la récursivité des programmes informatiques n'est ni répétition ni différence, mais ressemblance. Pourquoi la nature n'est ni nécessaire ni contingente, mais ressemblante. N'y a-t-il pas un lien entre l'accumulation des mémoires ces 15 dernières années, le web de zéro, le fait de nourrir des réseaux récursifs de neurones produisant de la ressemblance et le fait qu'une extinction massive est déjà en cours? N'est-ce pas que notre flux est notre reflux? Est-ce que cette imagination artificielle n'est pas notre pyramide? Alors Terre Seconde, c'est la mémoire ressuscitée de la nature. Elle en est la version possible, et ce possible est une image. Après la disparition de l'espèce humaine, une machine ayant accès à toutes les données du web tente de créer une version alternative de ce que nous avons été. Elle produit des organismes fantastiques en traitant des fichiers 3D d'espèces disparues. Elle donne lieu à des paysages surréalistes en se nourrissant de millions de photographies, d'images satellites, qui pourraient être cette Terre, la nôtre. Une voix de synthèse s'interroge. Géoforme-t-elle une nouvelle Terre ou est-ce simplement un simulacre? Quelle a été cette espèce qui se nommait humaine? À qui parle-t-elle et est-elle même une machine? Elle ne sait ni ce qu'elle fait, ni qui elle est. Le programme continue imperturbablement et le doute en fait partie. Les réseaux de neurones ont alors une portée historiographique. La récursivité de l'histoire est de tout récit. En se nourrissant de données passées, c'est-à-dire des mémoires que nous sommes et qui disparaîtront, dans la mort individuelle ou dans l'extinction collective, en se nourrissant donc de toutes nos finitudes, le logiciel produit une version alternative de ce qui aurait pu être, le possible, l'avenir donc. Il nous reste encore à imaginer, à faire l'image de l'image, de la nature et de la technique comme possible, et de mettre en œuvre l'art comme production de vérité. Pour finir, quasiment, cette phrase de Nietzsche, gardons-nous de dire que la mort est opposée à la vie. La vie n'est qu'une variété de la mort et une variété très rare. Gardons-nous de penser que le monde crée éternellement du nouveau. Il n'y a pas de subsistance éternellement durable. La matière est une erreur pareille à celle du dieu des Éléas. Mais quand serons-nous au bout de nos soins et de nos précautions? Quand toutes ces ombres de Dieu ne nous troubleront-elles plus? Quand aurons-nous entièrement dépouillé la nature de ses attributs divins? Quand aurons-nous le droit, nous autres hommes, de nous rendre naturels avec la nature pure, nouvellement trouvée, nouvellement délivrée.